Radio Okapi. Okapi, un partenariat entre la Mission des Nations Unies au Congo et la Fondation Hirondelle.
Connaissez-vous le phénomène les enfants d'abord au sein de nos universités et instituts supérieurs? Peut-être oui, peut-être non. Eh bien, si vous le connaissez, n'hésitez pas à nous appeler au 081 890 63 94, ou encore faites-nous un SMS tout de suite. Arlette Ngoui qui s'est ça et là. Elle est en train de m'entendre, elle me suit. Faites-nous un SMS au 081 070 20 50 pour nous faire part de votre témoignage. Cependant, nous avons pisté le bruit qui court, les enfants d'abord, sur le campus de l'université de Kinshasa. Et bien, tout à l'heure, nous aurons dans ce studio, je vous l'ai dit tout à l'heure, dernièrement là, le professeur Tchoma, doyen de la faculté de sciences sociales à l'UNIKIN, pour des plus amples informations. Mais pour l'instant, eh bien, notre reporter de choc, Jodine Kachamar, est allé à l'UNIKIN. Il a passé toute la journée hier. Bonjour Jodine.
Bonjour Nathalie.
Alors, c'est quoi les enfants d'abord?
Bien, les enfants d'abord est un concept élaboré par l'UNICEF pour soutenir sa campagne pour la défense des droits de l'enfant à travers le monde. Ben, d'après nos sources, ce concept a été récupéré dans les milieux étudiantins pour exprimer une réalité tout autre. Uh-huh. D'abord, les enfants des professeurs, ils doivent d'abord réussir en première session, les critères de délibération étant assouplis pour eux. Uh-huh. Ensuite, se distinguer. Pour finir, ils sont retenus comme assistants. Les enfants d'abord résument l'ensemble des privilèges et faveurs dont bénéficieraient les enfants des professeurs dans nos universités.
Je dis, est-ce que vous avez pu vérifier cela sur terrain?
Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes rendus au campus de l'université de Kinshasa, où nous avions parlé avec certains étudiants, si on peut les écouter.
C'est ma deuxième année à l'université. Ce que j'ai pu constater, c'est le fait que les enfants de profs ont été privilégiés. Donc, ils sont mis en premier rang. Parce qu'il y a certaines facultés où on peut être au nombre de 3000 ou 4000, je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Mais il y a au moins 15 ou 20 personnes qui passent en première session. Et parmi ces 20 personnes, ce ne sont que presque tous les enfants qui passent en première session sont des enfants de profs, de professeurs. Donc, ils sont là pour s'entraider. Ils s'entraident. Et je ne vois pas comment un autre professeur refusera un service demandé par son collègue. Surtout s'ils entretiennent de bons rapports.
J'étais un jour, je venais avec un groupe de chefs de travaux. C'était ici à l'université de Kinshasa. On s'est croisé avec un professeur. J'étais surpris, j'ai vu le professeur dire aux assistants, aux chefs de travaux, que non, monsieur, vous savez, j'ai un enfant, un jeune, un RI. Alors le chef de travaux leur a demandé, non, vous ne nous aviez pas dit. Et lui, il leur a dit, non, il est même mon nom là-bas. Et après la session, on a remarqué que l'enfant était passé en première session. Elle n'avait même pas les niveaux parce qu'on travaillait avec elle dans un groupe d'études. Et on voyait comment elle souffrait pour résoudre même des petites questions, des TP qu'on nous donnait par les professeurs. Chose étonnante, après la délibération, nous avons remarqué que cet enfant-là qui n'avait pas de niveau, il a passé en première session. Et nous qui travaillons durement, nous avons repris la deuxième session.
Mmh. Si cela est vrai, je dis, j'imagine bien que cela peut créer chez les autres étudiants dont les parents ne sont pas professeurs.
Eh bien, c'est tout simplement de la frustration. Ils sont frustrés, les autres étudiants, au fait disant qu'ils sont découragés, ils sont frustrés. C'est le cas de cet étudiant qu'on peut bien écouter.
Ça peut faire perdre la confiance à certains étudiants. Le manque de confiance et puis l'incertitude aussi, le découragement aussi. Tu t'es dit, ah, même si je crois que je fasse, je ne passerai qu'en deuxième session. Quoi que je dise, n'importe quels efforts que je peux fournir, je passerai seulement en deuxième session. Donc ça décourage un peu. Je pense qu'il vaut mieux essayer de changer un peu les choses. Être de bonne foi, être juste, essayer de donner à l'enfant ce qu'il a mérité. Et ceux qui ne l'ont pas mérité, je crois qu'ils doivent passer en deuxième session. Il ne faut pas faciliter les enfants d'abord.
Je dis, vous avez pu recueillir quand même la réaction d'un enfant dont le père est professeur.
Eh bien oui, j'ai rencontré un étudiant en deuxième licence droit. Mmh. Je l'ai trouvé en train de lire ses notes dans le bureau de son père.
En plus.
Oui. Enfin, alors, face au phénomène les enfants d'abord, il réagit en ces termes.
Vous savez, il y a un adage qui dit l'enfant d'un lion ou le petit d'un lion, c'est un lion tout fait. Cela veut dire que nous qui sommes fils des professeurs, les professeurs ont fourni beaucoup d'efforts pour devenir professeurs. Ce sont des gens qui lisent beaucoup, qui étudient beaucoup. Et naturellement, nous qui sommes enfants des professeurs, nous avons aussi cette chance ou cette probabilité de pouvoir nous donner au travail. Quand ils verront un enfant des professeurs qui travaille sans reprendre sa deuxième session, ils disent qu'il a été favorisé. Et ce n'est pas vrai. Sur la question, certains enfants des professeurs ne veulent pas travailler. Il y a des ceux qui se lèvent parce qu'ils sont fils des professeurs, mais pas travailler. Oui, je connais, il y a des amis qui jusque-là reprennent aussi leur promotion parce qu'ils n'ont pas bien travaillé.
Dites-nous, dans votre cursus universitaire, est-ce que vous avez déjà été ajourné une fois ou vous passez toujours en première session avec vos distinctions?
Il m'arrive des fois que je reprenne deux ou trois cours, et je les fais, je réussis en deuxième session, je passe.
Mais vous n'avez jamais été ajourné?
Je n'ai jamais été ajourné parce que je me fais beaucoup de soucis de travail.
Je rappelle à tous nos auditeurs, vous êtes étudiant à l'université, dans une institut supérieure ou encore vous êtes vous-même professeur, réagissez dès maintenant en nous appelant au 081-890-63-94, 081-890-63-94, ou si vous avez quelques sens dans votre appareil, envoyez-nous tout simplement un SMS au 081-070-2050. Jeudi, je reviens à vous. Que disent les professeurs sur ce sujet?
Voici, c'est justement un professeur de la faculté des droits pense que ça peut être une situation isolée. Cependant, les étudiants cherchent toujours des boucs émissaires pour justifier leur échec. Je vous propose de l'écouter.
Personnellement, je n'ai pas encore connu ce cas-là parce qu'on est enfant de professeur qu'on passe des classes. J'ai aussi moi-même petite sœur et frère ici à l'université. Et cela ne veut pas dire qu'ils sont toujours passés à une fois des classes. Il se peut aussi, il y en a qui ont eu-même à refaire. C'est peut-être un problème qu'on est en train d'extrapoler. À mon avis, c'est juste un problème de justification parce qu'on a échoué. Et on est dans un environnement où on a vu peut-être un cas isolé qui s'est passé. C'est peut-être arrivé, bien sûr. Un cas isolé qu'on a voulu généraliser. Qu'on a voulu généraliser, qu'on a peut-être généralisé, mais je ne pense pas que ce soit un problème réel.
Merci Jody, j'espère que vous-même n'êtes pas fils de professeur.
Ah non, je ne suis pas un enfant d'abord. C'est ce qui se raconte à l'université. Je pense que notre invité nous en dira plus.
Oui, il s'agit du professeur Tchoumba. Je rappelle, il est doyen en faculté de sciences sociales, c'est ça?
Oui, c'est
donc,
ça.
Donc il sera peut-être dans ce studio, je ne sais pas.
Oui, il sera là tout à l'heure.
Il sera là tout à l'heure, nous l'attendons donc. Merci pour toutes ces informations, Jody.
Je vous en prie.
Okapi, fréquence de l'Afrique.
Les enfants d'abord. Une chanson de Félix Oisecois. Malheureusement, hérité, s'il y a qu'elle n'est pas en mesure de me la mettre. Oh là là, hérité, ça serait tombé vraiment à notre DJ Daddy, hein. Ben, la prochaine fois, il faudra peut-être lui en parler un peu plus tôt, voilà, c'est tout simple. Alors, les enfants d'abord, le phénomène qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, qu'est-ce que vous en pensez? Appelez maintenant, là, tout de suite, dès que je suis en train de parler, prenez vos téléphones, appelez. Composez le 081-890-63-94, 081-890-63-94, Arlette est débordée, je la vois qui court par-ci, par-là, ou encore, envoyez-nous un SMS, 081-070-2050, appelez-nous, le professeur Tchoumba est arrivé, il est dans ce studio.
À l'écoute du Congo.
Tchoumba. Ben voilà, le professeur Tchoumba est en train de me faire la remarque pour me dire que son nom ce n'est pas Tchoumba, mais c'est plutôt Tchoumba. Oh, c'est compliqué, hein. Alors, c'est la deuxième fois que nous recevons le professeur Tchoumba dans ce studio. Il est notre invité. Voilà, je vois Didier Daddy. Est-ce que tu peux me trouver cette chanson-là? Les enfants d'abord, de Félix Oisecois. Merci, je sais que ça sera fait dans une ou deux minutes. Le professeur Tchoumba, qui est doyen de la faculté de sciences à l'UNIKIN, eh bien, il est notre invité. Professeur, nous sommes en train de parler du phénomène les enfants d'abord. Qu'est-ce que c'est?
Merci, madame, pour l'occasion que vous m'offrez de m'adresser à vos millions d'auditeurs. Cette question est délicate parce que le concept enfant d'abord, ou l'expression plutôt enfant d'abord, varie de contenu selon qu'il change de contexte. Lorsqu'on cite cette expression « les enfants d'abord », moi je le mets dans le premier contexte où il a été forgé, c'est l'UNICEF qui, dans le souci de pouvoir interpeller les parents au regard des droits des enfants qu'ils considèrent comme étant une couche vulnérable, a forgé ce mot dans le souci de faire passer le message selon lequel il faut toujours et avant tout penser aux enfants. La priorité surtout doit être accordée aux enfants. S'il n'y a pas assez de moyens ou s'il n'y a pas assez de repas, les adultes devraient pouvoir se faire violence et servir prioritairement les enfants. Donc les enfants doivent constituer un souci pour les parents. C'est dans ce sens-là que pour la première fois, j'ai entendu citer l'expression « les enfants d'abord ».
Oui. Alors, professeur, mais nous venons là de suivre ce reportage. Aujourd'hui, ce concept « enfants d'abord », concept utilisé par l'UNICEF, aujourd'hui, il se retrouve dans le milieu universitaire, dans les instituts supérieurs, pour exprimer le fait que ce sont d'abord les enfants des professeurs, les enfants de je sais pas moi, des chefs de travaux qui sont privilégiés. Est-ce que vous pouvez affirmer ou infirmer cela?
Madame, je ne peux pas infirmer cela. C'est devenu pratiquement une réalité à laquelle tout le monde devrait pouvoir essayer de réfléchir pour trouver des solutions. Personnellement, j'entends citer cette expression très abondamment lors de la période de délibération et particulièrement lorsque le jury vient rendre public, c'est-à-dire proclamer ou publier les décisions qui sont prises à l'issue d'une séance de délibération. Et personnellement, ma charge de doyen de faculté m'offre l'opportunité d'assister à toutes les proclamations qui se font. Et très habituellement, lorsqu'on cite le nom d'un fils ou d'une fille d'un professeur d'université, la foule réagit dans le sens de dire « les enfants d'abord ». Au départ, je ne comprenais pas le contenu que le monde étudiantin voulait donner à cette expression, à laquelle je venais de dire tantôt qu'il avait un autre contenu dans le cadre de l'UNICEF où on considère l'enfant comme étant un être vulnérable, qu'il faut à tout prix protéger, sécuriser. Mais dans le cas des universités, c'est vrai, c'est devenu une réalité. À chaque fois que l'on cite le nom d'un enfant dont les parents prestent à l'université, on entend citer disons, cette expression-là.
Oui, mais ça, c'est plutôt parce qu'on se dit, tiens, hein, l'enfant de ce professeur-là, et d'ailleurs, d'après le témoignage qu'on vient d'entendre, il semblerait que ces enfants-là sont plus privilégiés, c'est-à-dire ils ont facilement des notes, ils passent en première session, ils distinguent, ils sont retenus assistants.
Bien, c'est un grand débat. C'est vraiment un grand débat. Je ne sais pas par quel bout faut-il le prendre. Mais je voudrais d'abord commencer par dire que c'est assez très simpliste de croire que, parce que professeur, donc, nous sommes tous des amis, nous sommes tous des frères, nous regardons tous dans la même direction. Non, je crois que lorsqu'on parle des professeurs, il n'y a qu'un seul élément qui sert de trait d'union entre les prestataires. C'est le fait de détenir un doctorat et le fait d'avoir choisi la carrière enseignante comme métier. Mais nous n'avons pas tout en commun, madame. Et ce que l'on peut dire, par exemple, des ministres ou des musiciens ou des maçons, n'importe quel corps de métier, a en commun, bien entendu, la profession,
les exigences professionnelles, mais tout le monde n'est pas ami à tout le monde, parmi les professeurs. Et parce que, bien entendu, on nous observe de l'extérieur comme corps. Mmh. Mais si on peut devenir professeur, c'est alors que l'on connaîtra ce qui se passe entre les professeurs en termes des rapports sociaux. Nous ne formons pas, au-delà de ce que l'on dit corps des métiers, nous ne formons pas dans l'absolu, disons, un seul être. Nous avons nos divergences.
Bien sûr,
notre
vous avez...
corps. Je vais y arriver, madame. Et c'est un peu comme pour dire que c'est trop simpliste que de croire que, parce qu'enfant de professeur, même si l'on croise les bras, la réussite est déjà là. Ça serait vraiment avoir ce que je pourrais appeler des courtes vues. Dès qu'on est étudiant, on est soumis à la même réglementation. Peut-être plus loin, je pourrais donner des détails, et même les garde-fous qui ont été conçus par les législateurs en ce qui concerne la gestion notamment des épreuves au niveau de des établissements d'enseignement supérieur. Je voudrais donc dire que être professeur, c'est juste avoir choisi un métier. Mais on rencontre plusieurs individus qui sont devenus professeurs, mais qui viennent des horizons divers. Est-ce qu'on peut croire que parce que professeur, on a la même éducation de base? C'est pas vrai. Est-ce que parce qu'on est professeur, tout le monde fréquente le même culte, tout le monde est dans le même parti politique, tout le monde est dans les mêmes
mutualités? Je ne vois toujours pas le rapport, professeur Chumba.
Je voudrais ici d'abord dégager, avant de répondre véritablement à votre question, dégager l'idée selon laquelle on ne peut pas croire que tous les professeurs soient amis au point de pouvoir distribuer des points dès que l'on apprend que un tel est l'enfant de tel professeur. Bien au contraire, dans certains cas, ce serait une mauvaise chose que de faire brandir dans l'auditoire qu'on est fils d'eux.
On a entendu dans le reportage tout à l'heure que, évidemment, cela intervient souvent quand les professeurs ont des bons rapports entre eux. C'est-à-dire que moi, Nathalie Moutiba, professeure... je ne sais pas moi, de Radio-Télé, à l'IFASI, qui est vous, professeur Chumba, nous avons de très bons rapports, et bien parce que ma fille est là et qu'elle est une de vos étudiantes, je viens, je dis, écoutez, mon cher confrère, il faut quand même faire quelque chose pour ma fille.
Oui, ça, je ne saurais pas les nier dans l'absolu, comme je n'oserais pas l'affirmer, parce que je n'ai pas encore été témoin oculaire de ce genre de marchandage.
Vous voulez dire,
mais
professeur Chumba,
ça peut arriver, mais même alors, madame, si on peut voir un collègue avec lequel on est à très bon terme, mais on n'aura pas vu tout le monde. On n'aura pas vu tout le monde, et cette seule faveur ou une deuxième faveur sur une dizaine de matières ne fait pas encore l'affaire de l'enfant.
Mais vous reconnaissez néanmoins, professeur, que les enfants, des professeurs et autres enseignants ont certains privilèges par rapport à d'autres.
Je voudrais d'abord vous donner quelques indications avant que nous ne puissions tirer une conclusion sur cela. Les premiers privilèges, je crois on aurait dû d'abord les lire au niveau de la gestion administrative des étudiants, avant de parler des examens. Est-ce que les enfants des professeurs payent le Minerval à un taux différent de celui des autres enfants?
Est-ce le cas?
Non. Tous les étudiants, dès qu'on devient étudiant, on paye le même Minerval que tout le monde. Ils n'ont aucun privilège à ce niveau-là. Deuxième privilège, là où on pouvait trouver des privilèges, est-il autorisé aux enfants des professeurs de rester à la maison parce que ce sont leurs parents qui donnent cours? Non, l'assistance aux cours est obligatoire à tout le monde. Est-ce que les enfants des professeurs sont dispensés des exercices, des travaux pratiques et de ceci? Non. Ils sont dans les auditoires comme tout le monde. Mais moi, je crois, madame, que contrairement à ce que les communs mortels pourraient penser, les enfants des professeurs côtoient les livres depuis la maison. Ils vivent dans une certaine ambiance. Et depuis la maison, ils sont entraînés dans cet exercice intellectuels. Et assez souvent, ils partagent un certain nombre de discussions avec les parents déjà à la maison. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit des épreuves, c'est-à-dire des examens, généralement c'est à la fin de l'année, lorsque on cite les noms d'un étudiant
oui.
dont les parents n'est pas professeur oui. et que celui-ci a, par exemple, terminé brillamment avec grande distinction ou distinction, ça semble être naturel, ça ne pose pas problème.
Mais parce oui, parce que, bon, il n'a bénéficié d'aucun privilège.
Oui.
Il a travaillé durement, alors que, il est vrai, je ne vous contredis pas, professeur.
Oui.
Parmi les enfants de certains professeurs, il y en a qui sont brillants,
hein,
qui font des efforts eux-mêmes.
Oui.
Mais
oui.
il y en a d'autres, il est vrai, qui bénéficient de certains privilèges.
Madame, je serais heureux d'apprendre de votre part que vous-même, oui. vous avez été témoin oculaire d'un cas dûment vérifiable. Parce que je connais des enfants, des professeurs, qui déjà, avant même de parler de l'université, au Mohamba, c'est une école de l'université, école primaire et secondaire de l'université. Mais il y a des enfants de professeurs qui ne terminent pas au Mohamba. Un certain nombre d'entre eux sont renvoyés pour raison d'incompétence. Et ils vont terminer ailleurs. Ils sont nombreux. Des enfants qui n'ont pas terminé au Mohamba. Et je suis en train de me poser la question suivante. Est-il interdit à un enfant de professeur d'être intelligent? Est-ce que c'est interdit? Parce qu'on est on a un parent professeur, automatiquement, on est dépourvu de toute aptitude intellectuelle. Ça m'étonnerait, c'est difficile à défendre une telle thèse. Mais je sais que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les enfants de professeurs travaillent généralement en équipe. Je souhaiterais à ce que...
Excusez-moi, professeur, en équipe, entre eux ou avec les autres étudiants?
Ce sont des groupes hétérogènes.
Oui.
Oui, et ça serait... je vous invite à ce que vous puissiez, d'ici la fin de l'année académique, par exemple, venir filmer un peu la manière dont les étudiants travaillent. Je réside au plateau de l'Unikin et je sais que notamment au club des résidents, les enfants des professeurs, entre autres, et leurs amis, hein, dont les parents habitent en Bazalemba, à Kindele, restent ordinairement jusqu'à très tard la nuit pour pouvoir échanger, discuter. Et je crois sincèrement que si on est professeur, on ne peut pas croire que l'on est en train d'investir dans son enfant en lui facilitant toujours la tâche, en lui donnant des points. Nous-mêmes, nous sommes devenus professeurs. Ici où je suis avec vous, vous n'avez jamais vu mon diplôme.
Mm-hmm.
Mais ce qui compte, ce n'est pas le diplôme à donner à l'enfant. Et nous le savons plus que d'autres parents.
Okay.
C'est plutôt la formation qui doit être solide. C'est ça qui permettra à l'enfant de se débrouiller, de travailler, de convaincre partout où il ira.
Mais
je ne voudrais pas
oui.
affirmer que les statuts d'enfant de professeur puissent donner lieu à une théorie générale selon laquelle, dès qu'on est enfant de professeur, on a la facilité. D'autant plus que je connais non seulement des enfants de professeurs, mais même des épouses de professeurs qui ont refait l'année et qui ont même à un moment donné quitté l'université.
Mais néanmoins, professeur, il est vrai qu'on est un peu moins dur. Par exemple, un membre de la famille dont l'enfant est étudiant et dont vous êtes le professeur, il est vrai qu'on est un peu moins dur et un peu plus large.
Madame, cette observation me met dans l'obligation de vous signifier que les instructions académiques en ce qui concerne les règlements des examens
mm-hmm.
sont claires en cette matière-là. Lorsqu'on a son propre enfant ou un parent, est-ce qu'on peut l'interroger soi-même? Voici ce que prévoient les instructions académiques en cette matière. Nul ne peut examiner seul un conjoint, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré la présence d'au moins deux membres du jury est obligatoire. Je vous avais dit d'entrée de jeu qu'il y a quelques garde-fous qui permettent, un peu comme même dans les domaines médical, on ne peut pas soigner son propre enfant.
Mmh.
Hein, et même au niveau de l'enseignement, les dispositions sont telles que favoriser un enfant n'est pas une tâche facile. il peut peut-être bénéficier d'une faveur. Je ne veux pas dire que ça n'a jamais eu lieu. Mm-hmm. Mais quelle est la proportion de cette faveur-là? Et est-ce qu'elle est, elle est tranche toujours? Sinon, aucun enfant de professeur n'aurait des secondes de session, comme aucun enfant de professeur ne reprendrait l'année. Je voudrais ici, en ce qui me concerne plus, me rapporter aux réalités dans lesquelles j'évolue, c'est-à-dire à l'université de Kinshasa et particulièrement à la faculté où je suis doyen. Je connais, mais ce n'est pas le podium ici pour que je cite des noms, mais il y a des enfants. Il peut même arriver qu'il y ait, dans une promotion donnée, 10 étudiants qui aient distingué. Sur les 10, on peut trouver un seul enfant de professeur.
Mais qui va réussir et qui va passer en première session, professeur.
Vous ne m'avez pas bien suivi. J'ai dit, on proclame.
Oui.
Et puis on dit, il y a eu, par exemple, 10 étudiants qui ont réussi avec la mention distinction.
Tout à fait.
Sur les 10, 9 peuvent être des enfants dont les parents ne sont pas professeurs, mais l'unique enfant de professeur, peu importe ses aptitudes, dès qu'on cite son nom, la foule réagit dans le sens de la désapprobation. Ici, il se pose malgré tout quelques problèmes.
Professeur,
que l'on dise que dès que le parent devient professeur, il y a comme une sorte d'inhibition intellectuelle, toute sa progéniture ne pourrait pas avoir des aptitudes intellectuelles.
Professeur,
les parents ayant tout pris, ça m'étonnerait.
Nous avons beaucoup de questions, beaucoup de réactions qui nous sont arrivées, beaucoup.
Très bien.
Et ils sont tous unanimes, ils disent que c'est une pratique qui est courante et que ça se passe partout. Nous avons, qui nous tombe de partout, nous avons des questions qui nous arrivent de Kinshasa, nous avons des questions qui nous arrivent de Likasi, nous avons des questions qui nous arrivent de Matadi, de Goma, tous disent la même chose. Ils pensent effectivement que c'est une pratique qui est assez courante, professeur. Malheureusement, c'est un sujet qui est vraiment très vaste. On va peut-être en parler vu le temps qui nous est accordé, professeur. Mais peut-être pour éviter qu'il y ait toutes ces suppositions, hein, parce que c'est quand même étonnant que peut-être sur une classe ou dans l'auditoire où il y a 20, 30, et, qu'est-ce que je veux dire, 3000 étudiants, 15 passent en première session et sur les 15, peut-être 5 ou même 10 sont pour la plupart les enfants de professeurs. Pourquoi, quelles sont les solutions que vous proposez?
Madame, je crois que la solution n'est pas à trouver autour des statuts des parents des étudiants. La solution doit être trouvée au niveau des aptitudes de chacun des étudiants et de l'assiduité dont il fait preuve par rapport à ses obligations académiques. Je peux bien comprendre que les réactions puissent venir de partout, mais cela ne m'effraie pas parce que je suis dans la carrière enseignante depuis plus de 20 ans. Mais généralement, les étudiants qui ont l'habitude de croire et même de soutenir que les enfants des professeurs sont favorisés se recrutent parmi les étudiants moyens et parmi les étudiants faibles. Et il y en a dans chaque auditoire. Mais il y a des étudiants qui sont sûrs de leurs aptitudes intellectuelles et vis-à-vis desquels la réussite académique n'a pas d'autre secret que l'application. Je voudrais encore une fois affirmer qu'on ne peut pas trouver ce genre de proportion sur 15 réussites dans une promotion et il y aurait 10 enfants des professeurs, mais même si cela pouvait arriver, comme je l'ai dit au départ, il n'est pas interdit à un enfant de professeur de réussir. Et je vous donne encore comme témoignage, madame, dans certains cas, il est même recommandé de ne pas se faire trop prévaloir de ses statuts d'enfant de professeur. Parce que entre les professeurs, je l'ai dit au début, nous ne sommes pas tous amis. Il y a également les sentiments de leadership.
Tout à fait.
Que l'on ne doit pas négliger au sein d'un corps social.
Mm-hmm.
Nous sommes professeurs, c'est vrai, mais c'est pas seulement ça qui fait que nous puissions tous nous liguer en faveur d'une réussite percutante de l'enfant de tel. Et je connais des cas, c'est pas ici que l'on va délivrer divulguer plutôt les secrets de délibération, mais malheureusement, ceux qui affirment que c'est une pratique courante ne sont malheureusement pas membres des jurys. Ils ne viennent pas lorsque nous délibérons. Ils ne savent pas ce que l'on fait lorsque on doit pouvoir porter un tel jugement sur tel résultat. Mais au Congo, on a pris l'habitude d'être savant, de connaître tout, même ce à quoi on n'est pas associé. On prétend pouvoir donner des jugements que l'on considère comme des dogmes.
Merci beaucoup, professeur Chumba. Je rappelle que vous êtes doyen de faculté de sciences à l'UNIKIN. Sciences sociales. Nous allons y revenir. C'est un sujet très vaste. Malheureusement, le temps nous impartit, nous fait défaut. Peut-être prochainement, on pourra étendre ça sur une heure. Merci beaucoup, professeur Chumba. Et à la prochaine. Tout de suite, les enfants d'abord.